Claude MC, MC Solar. C'est franchement une grande joie de te rencontrer.
Ah bah ça me fait plaisir.
Parce que pour nous à M Radio, bah t'es tout simplement une légende. Et le podcast qu'on va faire ensemble s'appelle Les Légendes.
Génial, légendaire donc.
Voilà, c'est ça.
Les Légendes de la chanson française. Un podcast M Radio avec Isabelle Jamy.
Est-ce que ça fait bizarre de dire qu'on est une légende du rap?
Oui, ça fait bizarre. Et puis je suis obligé de l'accepter parce que il y a quelques jours là, j'étais en train de penser à tous les gens qui ont fait du rap avant moi, et je me rends compte qu'il y en avait pas, que j'étais dans la première, allez, on va dire la deuxième génération.
Ouais.
Donc rien que pour ça, je dois être une espèce de légende.
Ben oui.
Et puis comme je suis en tournée et puis je rencontre des gens de plusieurs générations, ça, visiblement il y a des choses qui ont accompagné des gens qui ont quand ils étaient enfants, quand ils étaient à la fac, quand ils étaient et on voit dans l'œil que à certains moments ça a marqué. Alors ils me voient comme un oui, je sais pas, c'est une légende. Oui, ils me voient un peu comme une légende en fait.
Hein. Mais oui, et puis surtout ils ont grandi avec toi et dans tes concerts on voit qu'il y a quand même des générations, plusieurs générations quoi, les parents, leurs enfants, et que effectivement t'as été un des premiers à amener le rap en France. Tu l'as rendu comment dire, tu nous as permis d'aimer le rap en fait, ouais, avec tes textes très ciselé. Juliette Gréco, elle disait que tu es
l'horticulteur des mots.
Je trouve
m'en
ça très beau.
Je souviendrai toujours.
Mais oui.
C'était avant le film au gars qui a des comment on appelle ça, des ciseaux sur les doigts.
Oui,
hein.
Oui.
Non, quand j'ai lu ça, j'ai trouvé ça Juliette Gréco, l'existentialisme, Miles Davis, le jazz, ça m'a super motivé hein. C'était
J'imagine.
C'était au début des années, c'était vers les années 2000, ouais,
ah ouais,
un peu avant, ouais, c'est ça, dans les années 90. Ça m'a super motivé de se rendre compte que les mots y fonctionnent. Et ce que je voulais faire à cette époque-là, c'était montrer que oui, qu'on pouvait écrire, qu'on pouvait faire de la littérature, qu'on pouvait jouer avec les mots. Il n'y avait pas que la révolte, il y avait aussi l'aspect artistique que moi je mettais dans ma partie de musique, et heureusement que j'ai pris cette voie, c'est-à-dire que le fait que ce soit, on appelle ça le flow, on appelle ça l'écriture, on appelle ça le storytelling,
ouais.
Heureusement que j'avais ce combat quoi, pour apporter des lettres de noblesse et pour pas que le genre musical soit caricaturé comme un truc fait un peu à la va-vite et
ouais,
tout.
Ou violent aussi, parce que finalement t'avais un rap très doux, et tu l'as toujours,
ouais,
qui
ouais,
dit des choses ouais, très précises, mais toujours avec quand même de l'humour,
ouais,
avec des images, et puis ce fameux storytelling qu'on aime tant chez toi.
Ouais. C'est indispensable quoi, d'avoir ce genre de figure imposée.
Ouais.
Un, pour avoir une couleur différente,
ouais,
ce qui montrait qu'il y avait de la diversité dans le genre musical. Et puis moi, à chaque fois, ça me faisait des challenges. L'humour, toujours, parce que sinon c'était le culte de la force,
ouais,
parce que c'est ce qui venait des États-Unis. J'ai parti de telle gang, on a fait ceci, on a fait cela. Et l'humour, ça permet de faire une distanciation et puis d'être super bien avec tous les gens, quoi, qu'ils soient du nord, du sud, de Marseille, de Sarcelles, de Lyon ou d'ailleurs,
ouais,
parce qu'on n'est pas sur le même registre. Donc on peut se faire des amis. S'il y a deux personnes qui jouent les pitbulls, ça va faire deux clans différents.
Mmh.
Et quand quand on aime cette musique et qu'en même temps on a du recul, bah ça m'a permis de rencontrer des groupes à Montpellier, d'être très proche de groupes à Marseille, de groupes à Sarcelles, de groupes à Montfermeil, parce qu'on n'est pas sur le même registre. Et puis, il paraît que quand deux animaux se voient en face, il y a le poil qui se hérisse, il y a que l'humain qui a le sourire, et le sourire permet le rapprochement.
Jimmy Jay, ça fait partie des rencontres hyper importantes pour toi à tes débuts, au
ouais,
moment de Caroline, de Bouche de la, Solar Pleure.
Ouais, il y a Jimmy Jay, c'est les premières fois qu'on va en studio.
Ouais.
Il y a ce DJ qui, quelques années avant, était champion de France de DJ. Et moi, j'avais pas de musique. Alors, on a organisé notre rencontre, on est allé dans un studio, et puis on a fait 4 maquettes. Qui sème le vent, récolte tempo, Caroline, Quartier Nord, Bouche de là. Et alors sa particularité avec moi, puisqu'il a bossé avec bien sûr beaucoup de gens, c'était qu'on cherchait des choses qui sonnaient un petit peu live et une inspiration jazz.
Ouais.
Oui, ça a été un grand, hein, grand DJ.
Alors j'ai découvert qu'en fait Bouge de là, c'est un sample de Simon Day, c'est ça, qui s'appelle The Message. Enfin, le titre, le morceau s'appelle The Message. Ouais. Et toi, t'as samplé la musique. Mais je voudrais que tu me racontes comment c'est né. Parce que je trouve ça complètement fascinant. En fait, quand on va écouter The Message et puis qu'on écoute Bouge de là, et qu'on n'est pas musicien, parce que nous, on n'est pas des musiciens,
Je vais éclaircir.
C'est étonnant.
Je vais éclaircir. Alors, Bouge de là, c'est un texte que j'ai fait sur Radio Nova dans le Dynastyle. On invitait des rappeurs à rapper, à faire des freestyles. Ok, donc il existait un petit peu dans mon, il existait comme ça. Et puis à la rencontre de Bouge de là, Jimmy Jay propose le sample de Simon Day. Donc moi, comme je rappe, je m'adapte puisque c'est pas la même cadence que la version que j'avais, donc je fais je sais m'adapter très facilement. Et c'était basé sur le sample de Simon Day au départ. Mais quand on est allé l'enregistrer pour le faire connaître aux gens, peut-être que le sample tournait pas très bien, alors on l'a fait rejouer. On l'a rejoué.
L'avait rejoué en fait, c'est ça. Mais c'est le même son. C'est incroyable, enfin. Pour une oreille comme la mienne, en tout cas.
Ouais, on peut penser que c'est le même son, mais c'est un titre qui est impossible à boucler d'abord. Il y a toujours quelque chose qui
marque la boucle.
Et alors, c'est pour ça qu'on l'a réenregistré. On est allé chercher un grand, grand, grand bassiste français qui s'appelle Laurent Verneret. Et puis, Jimmy Jay a mis ses mains à l'intérieur. Jean-François Delfour a mis leurs mains à l'intérieur pour essayer de pas faire la version originale.
Ouais.
Mais donc, ça sent le Simon Day, mais ça n'est pas Simon Day.
Oui, c'est ça qui est incroyable. Mais vraiment, j'encourage tout le monde à écouter.
La version de Simon Day. Il devait jouer cette année là à Paris. J'espère qu'ils vont revenir l'année prochaine.
Et c'est un groupe anglais.
Ouais. Le son, il est super bien parce que ça mélange un peu on va dire de la soul anglaise, mais il y a un petit côté tribal à l'intérieur. Mmh. La façon dont je pose un petit peu comme LKJ, qui est un chanteur de dub anglais. C'est un peu une sorte de raga. Tout a commencé là-bas dans la ville qu'on appelle Maison Alfort. Tout était bien. Ensemble. Mais à cette époque-là, on l'avait fait sans leur demander l'autorisation. C'est-à-dire que même si on ne prend pas le sample, le morceau, il y a quand même des choses, des lignes mélodiques et des choses comme ça. Et ils m'ont contacté. Évidemment, j'ai dit « Bien sûr que c'est à vous
».
On a fait un arrangement, mais un arrangement qui est 100% logique, puisque à cette époque-là, on regardait pas les samples, il y avait pas encore de législation. Mais dès qu'il y a eu la première demande, on m'a dit, on a reçu tel courrier, mais bien sûr que c'est eux, je l'entends. Donc, et puis je suis allé chanter avec eux sur scène.
C'est ça qui est génial, en fait. C'est qu'à la fin, t'as chanté avec eux.
Puis là, je voulais rechanter avec eux, mais ils reviennent l'année prochaine. Donc, ils étaient pas. C'est eux qui m'ont donné la chance, en réalité.
Ouais.
Et eux, ils m'ont dit que c'est moi qui leur ai donné la chance. Et en fait, il faut rendre à César ce qui appartient à César et à Simon Day ce qui appartient à Simon Day.
Vous êtes rendus mutuellement service, on va dire.
C'est sûr.
Dominique Blanc, Hubert Blanc-Francard aussi, ça a été pour toi une sacrée rencontre. Vous avez beaucoup travaillé ensemble.
Ouais. Quand on est arrivé avec Jimmy Jay, on savait rien faire. C'est-à-dire qu'il fallait savoir mixer. On entrait pour la première fois dans un studio et on a eu un sherpa, c'est Hubert, qui a dit ah c'est bien ce que vous faites là, mais il faut quand même savoir le travailler.
Mais
et donc nous c'était nos premières fois dans un studio et lui il avait une expérience incroyable, fanatique de soul. Ouvert sur la musique électronique avec son acolyte Zdar. Et heureusement, donc, on avait deux personnes un peu plus âgées que nous qui nous évitaient Bah, de travailler n'importe comment, quoi.
Parce que toi, t'avais 20 ans à cette époque, à peu près.
J'avais 20 ans. C'était la première fois que j'allais dans un vrai studio. Jimmy Jay a fait beaucoup de remix, connaissait un peu le son, mais connaissait pas le son qui sort. Et donc, entre Hubert, Zdar, Jimmy Jay et moi, il y a eu, je sais pas, que des échanges, que de, échanges de savoir.
Ouais.
Partage de connaissances. Il leur apportait la façon de faire des rythmes qui claquent. Eux, la subtilité de certains arrangements. Hubert Blanc-Francard apportait des voix. N'hésitez pas. On n'est pas obligé de les sampler. On peut les sampler, mais on peut aussi en prendre des vrais.
Faire des chœurs.
Ouais. Des chœurs. Il y avait l'aspect musical.
Ouais.
L'aspect rythme de nouvelles musiques qui arrivent. L'aspect de musique électronique et de free party pour Zdar, c'est-à-dire qu'on était à la rencontre de plusieurs courants musicaux, et là les gens quand ils sont ensemble, eh ben ils ont une accélération de savoir, ils passent du collège au doctorat ou à bac plus 7 parce qu'il y a que des spécialistes.
C'est les talents qui se réunissent quoi en fait.
Ouais ouais ouais. Quelle chance qu'ils se soient tous bien entendus.
Et puis quelle chance aussi qu'ils t'aient rencontré parce que ça a été fou aussi, ton écriture comme ça. Alors, je sais que l'école, c'était important pour toi parce que ta maman te disait le savoir, c'est ce qui compte le plus.
Ouais.
Et elle t'a poussé à avoir ton bac. Et tu racontes tout ça, toute ton enfance, tu la racontes hein, dans
ouais,
Lève-toi et rap.
Ouais, quelquefois, je raconte un peu ça dans mes raps. Mais
oui.
La chose qui était bien à l'école, je me rappelle en classe de seconde, première, c'est que moi, j'étais un peu dans le rap. Je sortais, j'allais dans les soirées, j'allais dans plein de trucs. Et puis quand je retournais en cours de français, punaise, c'est ce que fait Public Enemy à tel endroit, c'est ce que fait Big Daddy Kane, c'est ce que fait Tone Loc. En fait, j'ai appris que les flows des rappeurs américains, c'était des exercices de poétique qui existent, qui avaient des noms et qui avaient des choses. Alors là, ben, quand j'ai fait mon premier album, c'est-à-dire très tard, hein, après la rencontre de Hubert Zdar et Jimmy Jay, j'avais des armes pour pouvoir... Oui, pour pouvoir écrire, parce qu'à cette époque-là, il fallait vraiment dire que le rap, c'est pas juste ouais, on est en train de crier derrière un micro.
Ouais.
Moi, c'était ça mon truc, c'était de que mes acolytes de l'époque qui écoutaient du rock alternatif au lycée, ils se disent oh mais punaise, elle est bien votre musique. Et l'école a servi à beaucoup de choses. Et puis ça permet de prendre du recul, ça permet quand je dis ne pas faire comme les autres, c'est pas que y a une histoire de hiérarchie, mais avoir sa propre identité, à pas qu'on fasse tous pareil. Et ben c'est grâce à l'école que j'ai pu avoir des voix, des cheminements différents.
Parce que tu dis Raymond Queneau, tout ce que j'ai appris à l'école, les figures de style,
ouais.
Presque la grammaire, enfin la syntaxe, tout ça en fait, ça a été pour toi une vraie base d'écriture en fait.
Ouais. Ça a été une base d'écriture. Au lieu de donner comme exemple des produits de consommation, j'allais donner un sportif, un écrivain, un philosophe,
ouais.
Bah parce que c'est ce que j'avais dans la tête, quoi.
T'es une vraie éponge, hein. On se rend compte de ça quand on regarde tout ce que tu as fait, aussi bien dans tes savoirs, dans tout ce que t'as lu, que évidemment dans les styles musicaux, parce que t'es capable de faire toutes les musiques, que tu voulais être journaliste aussi au départ, et que donc le savoir, c'est quand même très important pour toi.
C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Moi, je me rappelle que quand j'étais étudiant, du moins étudiant aller au lycée.
Ouais.
C'était mon truc. J'avais lu un bouquin d'un journaliste allemand. Et j'aime bien décortiquer, c'est-à-dire savoir ce qui se passe, pas le faire savoir, mais simplement le savoir.
Ouais.
Et ça a été mon rôle dans le rap. Hein. Je raconte quelque chose qui s'appelle Armand est mort, c'est un petit moment de vie qu'on peut appeler aussi les chiens écrasés ou un fait divers. Tu vois, avec tout le cheminement. Quelquefois, j'étais un éditorialiste. Je sais pas, d'un morceau comme à temps partiel, le mec il est en train de dire que bon, quand on entre quelque chose, il faut pas le faire à temps partiel, il faut avoir la foi. Regard sur le monde avec la concubine de l'hémoglobine. Ouais, je me plaçais quelquefois en tant que journaliste. Là, c'était un journaliste qui faisait ce qu'on appelle aujourd'hui de la géopolitique, mais allez, un regard sur le monde avec un point de vue.
Ouais. Géopoétique.
Ouais, un petit peu avant la lettre, c'était déjà. Ouais, ce côté journaliste permet de mettre moins d'ego trip. La facilité quand on écrit, c'est-à-dire je suis le best, je vais te parler de ça parce que c'est moi. Et le fait d'écrire en journaliste, ça empêche de mettre le mot jeu. J-E, on peut le mettre de temps en temps, mais...
Ouais.
Et donc, on prend un recul. C'est une autre voix. Il y a beaucoup de rappeurs que j'aime bien, hein, ceux qui prennent du recul ou qui entrent dans des personnages. Quand j'ai découvert Aurel San à un moment donné, je me suis dit, oh, pas mal. Pas mal au niveau du flow, au niveau du rap, au niveau du ton, c'est parfait. Mais surtout, il y avait des décalages potentiels, entrer dans des personnages, faire le journaliste de sa génération.
Ouais, c'est ça.
C'était super. Et puis, il y en a eu plein d'autres.
Big Flo et Oli aussi, que t'aimes beaucoup.
Big Flo et Oli, parce que quand les entend sur scène, c'est vraiment le révélateur de ce qu'ils ont voulu dire, avec une interprétation en plus. Et pour des gens de leur génération, ça les met pas, je sais pas, au ras des pâquerettes. Ça leur ouvre des tas de sujets
Vous
sur le monde.
Vous avez fait un titre ensemble.
On a fait un titre, ouais. Bons élèves.
Ouais. Où ils se mettent à nu, hein, au sens propre, enfin propre. Non, ils sont torse nu.
Ouais.
Mais je veux dire par là où ils parlent, de leur complexe, de ce qui pourrait les mettre mal à l'aise, de toutes les ambivalences en fait, du métier quoi.
Ouais, ils sont vraiment, il faut oser. Il y a pas de rappeurs qui font ça. Hein. Le rappeur, c'est quelqu'un qui s'expose sur une vitrine et montre le meilleur parti de lui-même. C'est encore quelque chose que j'ai aimé chez eux.
Ouais.
Ils allaient pas refaire pour la centième fois. On va se mettre à nu et même à l'image. Celui qui a fait le clip, c'est Big Flo. C'est-à-dire, c'est le plus jeune des deux et il a osé avoir cette audace. Voilà.
J'ai trouvé ça très fort.
Ouais, c'est vraiment, vraiment bien.
Ouais. Et puis toi, t'es super dedans, comme à chaque fois. Nous, on est fans à M Radio. Tu sais que quand on arrive le matin et qu'on voit un titre de toi dans le conducteur de l'émission, que ce soit Caroline, Bouche de là, bref, on sait que ça va nous mettre bien, qu'on va être bien dans l'émission.
Bon, c'est en lien avec mon nom. Dans Solar, il y a soleil.
Exactement.
Même en plein hiver.
C'est vrai. Et on va donc parler de cette trilogie incroyable que tu nous as sortie, quoi, 21 titres comme ça, presque d'un coup. Alors,
c'est 21 titres écrits entre la tournée et puis entre des dates où je rencontrais des gens, des régions, et puis entrer, aller en studio et puis se faire ce challenge. Alors je l'ai appelé triptyque parce que je savais que j'avais pas beaucoup de temps entre les dates, donc je savais qu'il fallait le saucissonner, mais ça a été quelque chose de super.
Mais t'aurais pu faire un album juste de 10 titres justement, puisque t'avais pas beaucoup de temps, mais non, tu t'es dit je vais... Donc il y a 3 volets, Lueur Céleste, Éclat Cosmique et Balade Astrale.
Ouais.
Pour moi c'est vraiment une galaxie composée de 3 étoiles. C'est... magnifique.
Ouais.
On peut l'écouter, le réécouter. À chaque fois, on redécouvre de nouvelles choses. Enfin, c'est d'une richesse incroyable ce que tu as fait. Et vraiment, nous, on est fans, en tout cas, radio. Et alors, tes pochettes rappellent aussi un petit peu l'esthétisme d'Andy Warhol.
Ah bah oui, un côté warholien. Couleurs comme ça, là, un petit peu les Roneo ou les trucs de ces années-là.
Et avec plusieurs couches de vêtements sur toi aussi.
Ouais,
c'est marrant.
Ça, c'est le photographe belge qui... Qu'est-ce que tu veux faire ? Des couches. Oh là là ! Eh ben, j'ai trouvé l'idée super. Ça donne des dynamiques... je sais pas, bon, ça donne quelque chose. Et... bon, j'aime les Belges, mais c'était ça, quoi, le mot qui nous a dit, c'est on va mettre plusieurs couches.
Ouais.
Bon, elles sont belles, quoi, elles sont différentes de celles que j'ai pu faire auparavant. J'en ai peut-être fait une en Russie dans les années 2000, qui ressemblait un peu, mais c'est bon, ça a été quelque chose d'autre. Et surtout, on voulait faire des objets qui se répondent.
Oui, c'est ça.
Avec les monochromes waroliens. Du moins, je dis ça, mais j'y suis pour rien.
C'est vrai que ça fait vraiment penser à ça tout de suite.
Et
alors, quel est le fil conducteur des 3 volets?
C'est partir vers l'inconnu quand même. Hein. C'est pour ça qu'il y a Lueur Céleste. On partait vers l'inconnu. Est-ce que c'était possible d'aller jusqu'au bout? Je crois qu'il y a quelques moments de joie parce qu'on était en tournée et ça faisait longtemps qu'on n'avait pas tourné sous cette forme-là, c'est-à-dire avec des morceaux à moi à 100%. Mais je crois que c'est juste, c'est une identité. Hein. Je crois qu'il y a des morceaux, ça se complète. En fait, si bah, c'est comme un triptyque, hein, une fois qu'on a les trois, on a l'œuvre, mais elle se complète. Hein, y en a qui se répondent. Il y a des choses qui sont. J'ai deux trucs que je voulais un petit peu dark, hein, qui s'appelle Candyman.
Oui.
Des choses que je voulais solaires et lunaires. Le matos vient de chez Mao. Pierre Feuille vient de Vodao.
Pierre Feuille sur scène, ça va être, enfin, ça doit être, parce que moi, je t'ai pas encore vu là avec ces titres-là sur scène, mais ça doit mettre bien le feu, je pense, hein.
Oui.
Parce que c'est.
Ça, c'est les morceaux qui sont nés de la scène, quoi, de voir des gens qui, tiens, qu'est-ce qu'on pourrait leur faire pour combler une lacune. On a un morceau qui s'appelle Dingue, qui est une folie.
Alors, non, mais Dingue, je vais te dire la vérité, c'est ma chanson pour faire mon sport. Ah. Non mais je l'adore parce qu'elle a un rythme tellement. Tu peux pas nous la faire là, un tout petit bout de dingue le refrain.
Je vais le lire. Alors le refrain c'est du ragga de Bastille.
J'adore moi, c'est une dinguerie.
Alors ce fameux refrain, il donne. Ding da da ding da ding da ding 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 da da ding da ding da ding ding da da ding da ding da ding 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 da da ding da ding da ding ding comme dans la bd bang 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 etc. Vous avez vu, il y a des notes, hein.
Mais je l'adore. Non mais écoutez, dingue, elle est incroyable. Moi non mais alors peut-être tu trouves ça pas bien que je te dise que c'est ma chanson de sport, mais c'est celle qui me permet de tenir. Tu sais, quand tu te dis encore 10, j'en fais encore 10 des pompes, ben voilà.
Ah ben
c'est pas grave.
Eh ben si c'est bien. Pour le sport, pour le bateau, pour le yacht ou pour le lit. Non, elle a quelque chose, c'est qu'elle elle me fait penser à l'époque, il y avait Zdar, il y avait Hubert, Zdar, Jimmy J.
Ouais.
Alors, Zdar, lui, il allait beaucoup dans les rêves parties pour avoir des sons, pour avoir les infrabasses, pour avoir un truc qu'il a injecté dans mes deux premiers albums.
Est-ce que c'est ce qu'on appelle la drum and bass, ça, ce que tu dis là?
Non, c'est pas de la drum and bass, mais c'est une école qui est vraiment très proche.
Ok.
Donc, il y a ça dedans. Il y a le côté ragga, moi qui en faisais, qui allait dans les sons de système et qui arrive dans le refrain. Ding 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 ding. Il y a le côté house, c'est ce que fait Cassius aujourd'hui. Et on est, je sais pas, quelques années après, et on dirait que j'ai retrouvé, je sais pas, comme si on était au début des années 90.
Ouais. Cassius, c'est Hubert Blanc-Francard, hein, c'est ça.
Cassius, c'est Hubert Blanc-Francard.
Pour ceux qui savent pas. Ouais. Et alors, ouais, donc c'est comme un retour à cette époque-là, l'époque du globo, c'est ça, quand tu étais là-bas avec tous ces talents.
Ouais, la façon dont il a été fait, la période, le son, pourquoi il a été fait aussi facilement, pourquoi il y a un refrain ragga, c'est que c'est ça, c'est cette période des débuts où il y a justement le drum and bass, le reggae, le ragamuffin hip-hop, le début du rap. La fin de la variété française et puis l'arrivée des smileys et de la house music. Et ben des années après, dingue, c'est toutes ces choses qui sont concentrées là-dedans.
Ah, moi, et tu sais, c'est mon coup de cœur vraiment sur le. Et pourtant il y a 21 chansons.
Ouais.
Mais je sais pas, celle-là, elle est très marquante. Bon, il y en a plein. Il y a Carpe Diem aussi qui est magnifique. T'avais déjà fait un Carpe Diem dans chapitre 7.
Exact.
Et tu as remis le couvert. La mélodie est magnifique. Et tu dis dans Carpe Diem, la fortune n'est pas dans la file indienne qui mène où l'on entend le chant des sirènes.
Ouais.
C'est hyper beau.
Ouais. Je sais pas, mais en tout cas, philosophiquement, je sais que ça voulait dire quelque chose. Mais oui, il faut pas écouter le chant des sirènes. En tout cas, c'est comme ça que ça a été fait. Voilà, il faut pas écouter le chant des sirènes. Il faut prendre sa direction, sa chance, son, comment on appelle ça, être soi, en gros. Et mais j'aime bien ce morceau aussi. Hein.
C'est ce que t'as apporté ta maman, ça, ce côté-là de croire en soi. Donc toi, tu es né à Dakar au Sénégal.
Ouais.
Tu es parti du Tchad. T'avais 6 mois. T'étais un tout petit bébé.
Exact.
Tu es parti faire tes études au Caire.
Ouais. Oh là là.
T'es rentré faire ton bac ici en France. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ton enfance, de comment t'as vécu tout ça, comment c'était avec ta maman, enfin.
Alors, comment c'était, c'est large.
Oui.
Alors,
c'est parce que comme ça, tu dis ce que t'as envie de dire.
Ouais. Mais il y avait de l'observation surtout. C'était observer comment ma mère, mon grand frère fonctionnent, en gros. Et donc, j'observe. Quelquefois, je vois que ils vont travailler. Je pense pas qu'on m'ait inculqué beaucoup de choses, c'est surtout voir que les gens, ils se donnent à fond pour arriver à faire vivre une famille, entre guillemets. Mais il y avait quand même quelque chose qui était, il faut passer le bac, en gros, il faut travailler à l'école, quoi, avoir, passer à la classe supérieure. Et je crois que une fois que j'ai fait cette mission d'avoir le bac, c'est bon. En fait, ça donne un objectif, quoi. Ça donne un objectif. Qu'est-ce que j'ai appris moi des parents je trouve que c'était quand même assez libéral. Il n'y avait pas des choses qui étaient directives. Peut-être dû à un bouquin qui s'appelait Comprendre et éduquer un enfant difficile, qui n'était pas acheté pour moi, mais qui était là dans la maison.
C'était Françoise Dolto, non ?
Ah, je ne sais pas, puisque c'était pas à moi de le lire. Ah, mais ouais. Je sais qu'il n'avait pas été acheté pour moi. Mais comme je l'ai feuilleté, je me suis rendu compte qu'il y avait des choses qui disaient qu'il fallait. Lâcher pas avoir de laisse, ouais. Laisser les gens avoir un petit peu d'autonomie. Et donc je crois que je n'ai jamais eu de, je sais pas, de remontrance quelconque.
T'étais libre.
Ouais, avec assez une libre. Surveillance, ouais. La partie du contrat, j'arrivais à la remplir. Bon, ça donne moi. Mais à côté, il y en a d'autres qui ont eu quelque chose de différent et qui sont aussi bien.
Ça donne un bel être humain.
En tout cas, observer comment fonctionnent les adultes.
Comment t'es toi avec tes enfants? T'as deux enfants. Ouais. T'es quel genre de papa alors?
Alors moi, je crois que je suis. Je crois que je laisse de l'autonomie.
Ouais.
J'essaye de pas fouiller dans leurs affaires, c'est-à-dire pas les orienter sur leurs choix. En partant du constat que quand on dit quelque chose à quelqu'un, il a envie de bien faire. Et si on se trompe, il va tout faire pour arriver sur quelque chose qu'il a pas choisi. Donc, je laisse, je mets un peu de parfum, je mets un peu de sirop de citron, et c'est à eux de doser les grandes doses d'eau pour savoir où est-ce qu'ils veulent aller. Moi, je mets juste un parfum.
Un parfum musical ou pas du tout?
Non.
Tu les mènes pas vers la musique forcément. Enfin, tu leur donnes pas envie forcément de faire de la musique.
Non, je m'implique pas. J'ai tellement vu de parents venir à l'entraînement de football, tout faire pour que leur fils ait comme. Et il peut pas y avoir 300 joueurs dans un département, quoi. Et puis les enfants, ils veulent tellement faire plaisir à leurs parents qu'ils vont à tous les entraînements, qu'ils s'énervent, Et en fait, c'est pas eux qui choisissent. Ils veulent faire plaisir et ils donnent tout pour faire plaisir à leurs parents. Et leurs parents auraient dû leur demander, je sais pas, si t'as envie de faire du ping-pong, n'hésite pas. Et c'est mon positionnement, laisser les gens choisir.
Toi, la musique est venue comment? Parce que donc par les mots, évidemment, puisque t'adores les mots, la langue française. Mm-hmm. Mais comment en fait, qu'est-ce qui a été le déclic pour toi par rapport à la musique quand t'étais jeune?
Oh, par rapport à la musique, c'est venu tard la musique, hein. C'est venu. Alors moi, ce que j'écoutais de la variété française, c'est ce qu'il y avait à la radio en France. J'ai écouté du reggae grâce à un oncle.
Bob Marley.
Oui, Bob Marley, ouais. Peter Tosh, Serge Gainsbourg, et puis beaucoup de ragamuffin. C'est le reggae à partir des années 82, digital, fait avec des choses électroniques. Papa San, Yellowman, Charlie Chaplin et d'autres. Mais la musique en elle-même, c'est j'étais fanatique du rap parce qu'il y avait des groupes qui étaient ensemble. Ils dansaient, ils taguaient, ils faisaient des fresques. C'est arrivé vraiment tard. C'est arrivé à mon avis. C'était pas de la musique, c'était des freestyles. Voilà. Ouais. C'était pas de la musique, c'était des freestyles. Il y avait pas de disque qui existait, donc on n'imaginait pas qu'un jour on allait chanter sur un tréteau ou sur une scène. Et il y avait rien qui était écrit, donc on prenait le micro, on faisait blabla ta 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 ta. Elle est arrivée vraiment tard. Honnêtement, la première fois que j'ai pensé à faire de la musique, c'est quand je suis allé dans un studio à Bastille qui s'appelle le Studio Bastille et qu'on a fait une maquette pour Bouche de là. Parce que là, ça avait l'air d'être un petit peu officiel,
bah ouais.
Parce qu'on était dans un studio. Donc c'est vraiment venu très tard. Et si Jimmy Jade n'avait pas dit viens, on fait un album, c'est-à-dire il faut en écrire d'autres, je serais resté sur cette idée de tiens, on en a fait un. Et puis après un autre.
C'est fou. Ouais. Et Bouge de là, en plus, c'était un truc que tu disais comme ça, dans la vraie vie. Bouge de là, c'était un petit gimmick.
C'est un gimmick qu'on voulait lancer dans le département, dans les écoles, dans les trucs. En fait, il suffit qu'il y ait une quinzaine de personnes qui chacun vont dans un collège et prennent une expression. Et hop, après, on aimait bien les voir revenir. Partout.
Ouais.
Et ouais, c'est une expression, himchi, bouche de l'art.
C'est marrant.
Ouais.
Dans Triptyque, il y a Balade Astrale, qui est le troisième volet. Il y a une chanson qui s'appelle James Brown. Donc tu avais fait sa première partie.
Ouais.
J'aimerais bien que tu nous racontes ça quand même. Et est-ce que tu l'as vu? Est-ce que tu lui as parlé? Comment ça s'est passé?
La première partie de James Brown, c'est une surprise totale. Il y a quelqu'un qui vient de l'Est ou bien de Moselle. Oh là là, un gars, il nous dit j'ai fait venir James Brown à Bercy. Est-ce que ça vous dit de faire la première partie? Mais franchement, on a dit oui. On n'a pas un album encore. Hein. Et puis surtout James Brown, c'est tout ce qu'écoutaient nos devanciers, les aînés, tous ceux qui allaient écouter du jazz rock, les grands danseurs, et tout ça.
Et toi aussi, tu l'écoutais?
J'écoutais, mais de ma génération.
Ouais.
On s'entraîne là, hein. Hop là, hop.
T'avais la pression?
Ouais, il y avait une vraie pression. Une vraie pression. On a fait venir des danseuses parce que à cette époque-là, il y avait, il y avait le double dutch, la danse, c'était des choses qui culturellement étaient importantes. Donc ouais, il y a James Bond. Là, il faut qu'on, pour la première fois, on a fait une répétition en gros. Et puis on a chanté devant James Brown. Bon, là, ça va. Et puis le grand moment, c'est de le croiser après, du moins le croiser. Je crois qu'il y a Didi Bridgewater qui est une chanteuse de jazz, qui me dit je le connais bien, tu vas pouvoir le rencontrer.
Wow.
Donc elle a frappé, il y avait beaucoup de gens, et puis on s'est approché. Il y a un membre du 5-7 qui a immortalisé une photo. Évidemment, on n'a pas parlé, puisque qu'est-ce qu'on peut dire dans un moment comme ça à James Brown, à part que vous êtes beaucoup quoi dans l'histoire de la pop culture américaine, mais aussi dans l'histoire des droits civiques, mais aussi dans l'histoire de la résistance, mais aussi dans l'histoire de la musique, mais aussi dans l'histoire de l'humanité. Et on m'a sorti cette photo il y a 3 ans. C'était vraiment.
Ah, t'as une photo quand même, ça c'est génial.
Ouais, c'était vraiment bien. Avant-hier, j'étais à Marseille avec un membre de la famille d'Akhenaton, du groupe IAM,
ouais.
Et qui m'a raconté une histoire que James Bond les a fait entrer dans son avion pour venir jouer avec lui en région parisienne. Donc je suis le deuxième avec James Brown en France, mais pas le deuxième parce qu'il a dû connaître plein de gens. Mais c'était les mêmes vibrations quand il me racontait, c'est qu'il les avait vus une fois, et puis quand il les a revus, il les a invités sur un coup de tête à venir chanter avec eux. Bon.
Et donc t'as voulu mettre une chanson qui s'appelle James Brown dans ton
triptyque.
Oui, James
Brown, c'est le souvenir.
C'est le souvenir.
Oui, c'est le souvenir. On était en train de faire une prod, il y avait ça, il y avait un peu de guitare.
Génial.
Et c'est James Brown qui est arrivé. Avec une, c'est James Brown qui est arrivé.
La guitare, elle est hyper importante pour toi, et même le rock, c'est ça qui est dingue, parce que donc tu couvres plein de styles musicaux, tu sais tout faire, et tu expliques que par exemple pour Solar Pleur, c'est une guitare rock un peu qui était en boucle comme ça, qui t'a permis de commencer à écrire.
Ouais.
Et ça a donné un titre incroyable.
Ça a donné un titre incroyable. Ça a donné aussi, c'est cette guitare. Moi, il y a eu une période où il y avait du rock alternatif partout. Gogol Premier, La Mano Negra, plein de groupes, Ludwig van 88, Molodoy. Et moi, j'étais au lycée et donc j'entendais ça. Et donc il y a un petit peu en moi le rock. Je sais pas.
Oui.
C'est assez spontané. C'est dès qu'il y a, il y a des choses qui arrivent toujours. À chaque fois que j'ai une prod qui ressemble un peu, il y a eu Da Vinci Claude, il y a eu La Vie est belle, Solar Pleur, et puis une que j'ai quelque part dans un ordinateur, C'est très très, parce que ça te met dans un bain de ton adolescence où t'entendais des gens crier parce que c'était du rock, du punk rock souvent, ou bien du rock alternatif.
Oui, c'est ça. Ouais. Et dans ton dernier couplet de Solar Pleure, pour moi c'est rock. Quoi, il y a ce cri avant le dernier couplet, et moi à chaque fois ça me met les poils.
Ouais.
C'est...
Là, je me suis mis, mais involontairement, hein, c'est spontané. Il y a un truc rock, et donc même le couplet rap, il a un côté rock offensif qui va de l'avant, et puis après ça explose.
Ouais, ça explose dans le dernier couplet. Ouais. Oh, réécoutez Solar Pleure si vous ne l'avez pas fait dans les dernières 24 heures. il faut qu'on parle quand même encore de ce triptyque qui est incroyable. Oh, ah oui, la basse de Il Danse.
Ouais.
C'est une fille qui joue de la basse avec toi.
Sur la scène, c'est une fille qui joue de la basse.
J'ai cherché parce que je voulais savoir qui jouait cette basse incroyable.
Ouais.
Emmeline Fougeret.
Ouais. Alors c'est quelqu'un d'extraordinaire. Hein. C'est-à-dire que on était en train de monter le show. On se dit, ce serait bien qu'il y ait de la basse réelle pour apporter un truc. Ok. Eh ben c'est une jeune fille. Alors je sais pas si je vais bien le dire parce que c'est pas parce qu'elle est jeune qu'il faut pas la respecter, mais il y a, on la trouve. C'était pendant le Covid. Visiblement elle faisait des démonstrations de basse.
D'accord.
Et puis c'est tombé dans. Il y a quelqu'un qui l'a vue et qui a dit bon, moi j'en connais une qui a l'air très bien. Alors on a prévenu mon acolyte Bambi Cruz qui l'a contactée. Et puis on s'est rendu compte que à son âge, je sais pas, elle savait bien jouer. Elle groove. Super bien. Elle a connu le jazz fusion, le vrai rôle de la basse. Je ne sais pas où est-ce qu'elle a appris ça. Et moi, je me rappelle dans les premiers concerts, j'approchais pour être sûr que c'était elle qui faisait, qui jouait, mais pour de vrai. Et c'était elle qui jouait. Alors, je ne sais pas d'où lui vient son talent. En tout cas, elle a bossé pour avoir un niveau comme ça. Donc, vive les réseaux, parce qu'elle faisait quelques démos. Et c'est tombé au bon endroit, au bon moment. Bon, en tout cas pour nous.
Grâce au Covid, on a enfin une bonne raison.
Vive le Covid, ça fait découvrir des gens.
Les réseaux, t'en parles un peu, un petit. Bref, c'est pas vraiment les réseaux, mais c'est l'intelligence artificielle. Hein, t'en parles dans Balade Astrale, ça s'appelle IA. C'est une IA qui devient juge en fait carrément dans un tribunal.
Ouais.
Elle est assez anxiogène celle-là, mais elle est intéressante.
C'est une intelligence artificielle qui a sa solution. Elle est très dure. Elle dit vous êtes coupable quoi qu'il en soit quoi en gros.
C'est terrible.
Ouais. Alors j'imagine qu'un jour bon allez non ça va pas arriver puisque entre temps il y a eu je sais pas l'évolution des des intelligences artificielles. Elles sont plus intelligentes, elles sont plus subtiles, elles arrivent à séparer. Elles te préviennent quand elles vont quelquefois dans l'erreur. Elles ont déjà les jurisprudences potentielles.
Ouais.
Et donc, ouf, les intelligences artificielles sont intelligentes ces temps-ci. Mais il fallait que je parle de ça parce que j'avais fait un morceau qui s'appelait Révolution industrielle, qui raconte un peu l'histoire de l'humanité. Et puis il fallait... Mais zut, on est au 21e siècle et voilà, j'ai fait une continuation de ce morceau Révolution industrielle. Sinon, moi, j'ai quelques IA. Je m'en sers comme un Wikipédia, mais honnêtement, heureusement que c'est là. Hein, ça m'évite quelquefois d'aller fouiller dans des tas de bouquins pour...
Ouais.
Ou bien ça m'oriente vers des bouquins. L'être humain est vraiment très fort. Donc mon morceau peut paraître anxiogène, mais c'est pour que les gens, quand ils seront face à un choix, qu'ils prennent pas ce choix-là. C'est tout.
Ouais. Mais c'est à ça que sert un artiste, en fait. Hein. C'est à nous faire réfléchir. Moi, celle-là, elle m'a fait beaucoup réfléchir, par exemple, tu vois, cette chanson-là.
Ah. Vrai que les artistes, souvent, ils ont un peu d'avance. Bon,
oui.
Moi, ça va. On dirait un film des années 80 avec Sylvester Stallone et Schwarzy. Ou avec le pré-crime, je sais plus comment ça s'appelle, Minority Report ou un truc comme ça. Mais je me rends compte que les artistes, en général, ils sentent quelque chose, ils arrivent à prévenir. Et c'est ça que je souhaite. Moi, j'avais dit dans La Concubine et l'Hémoglobine, si quelqu'un, à un moment donné, est un scientifique qui est en train de travailler sur quelque chose, s'il y a une musique qui lui dit, c'est peut-être pas... Voilà, ça peut parler à l'oreille, au subconscient ou à l'inconscient de cette personne qui prendrait les garde-fous. En tout cas, quand j'étais adolescent, c'est comme ça que je voyais la musique. C'est quelque chose qui, à un moment crucial de choix, il peut te donner des arguments pour faire une dissociation dans, pour que tu fasses le bon choix.
Mais c'est tout ton talent de le faire aussi avec beaucoup d'humour, avec les punchlines, avec les images. Enfin, pour moi, c'est très proche du cinéma, en fait, tout ce que tu écris.
Ouais, je me rends compte que j'écris un peu. Ouais, j'ai commencé il y a un certain temps à faire du cinéma pour les aveugles. Là, j'ai refait un morceau, mais j'avais fait un morceau qui s'appelait Jumelle, qui était un peu du cinéma, et puis un autre qui s'appelait Caroline, qui est un peu du cinéma. Mais
Candyman aussi, pour moi, elle est très cinématographique.
Ouais.
J'aime beaucoup.
Et pourquoi? C'est grâce à l'éducation française, puisqu'il y a toujours à un moment donné où on doit étudier une pièce de théâtre. Et c'est là qu'on apprend l'unité de temps, d'action, de lieu, et voilà, ça infuse. Quand on écrit un rap, quelquefois on se dit, tiens, ça devient très classique, parce que c'est comme ça qu'ils faisaient le théâtre à l'époque du théâtre, puisque maintenant c'est les jeux vidéo.
De Molière déjà.
Ouais, c'est ça.
Il y a Mytho, il faut quand même qu'on parle de Mytho. C'est
des mythos.
Éclat cosmique.
Ouais.
Bon, ça, le mytho des réseaux, quoi. En gros, c'est regardez chez moi comme c'est bien rangé, regardez mon gâteau comme il est réussi, regardez comme je suis belle.
Ouais.
C'est du mytho, quoi.
Ouais. Bon, c'est un morceau assez léger.
Oui, mais il fait du bien quand même. C'est vrai, ça fait du bien de l'entendre.
C'est les choses que je vois, quelquefois je lis. Il paraît que ça transforme la personnalité. Il paraît que ça crée des dépressions parce qu'on voit tout l'entourage qui ont des vies extraordinaires et donc on pense que la sienne n'est pas au niveau.
Ouais.
Ça crée c'est né avec le selfie en anglais, selfish, c'est une sorte d'égoïsme, c'est-à-dire qu'on est devant un tableau et on va se filmer soi plutôt que de partager le tableau, des choses comme ça. C'est tout ça que j'ai mis. Mais alors franchement, c'est il était long ce morceau, hein, on l'a surdécoupé parce qu'il y a tous les exemples de ça, mais en même temps c'est léger, puisque les gens, quand on les regarde 5 ans après, ils vont bien, quoi.
On l'espère pour eux, sauf ceux qui sont tombés d'une falaise en prenant un selfie d'un peu trop près du bord. C'est terrible.
Il y a eu beaucoup en Corée des accidents de voiture parce qu'on était sur son téléphone. Mais il y a plein de choses rigolotes. Il y a les gens qui vendent des choses à d'autres gens. Je sais pas. Bon, il fallait pas le prendre au sérieux puisque toutes les générations connaissent ça.
Bien sûr.
Alors que moi, je le prends vraiment avec un peu de vraiment du recul, parce que si je parle à quelqu'un de 16 ans, il connaît tout ça par cœur. Il a déjà les garde-fous. Ils arrivent à lire si c'est vrai, si le forex c'est du vrai, du faux, si le mec, ça va. Heureusement que.
Il paraît qu'il faut regarder les doigts pour savoir si c'est l'intelligence artificielle qui a créé une image ou si c'est une vraie image. J'ai vu ça,
Ou l'œil qui ne bouge pas.
Oui.
Ah ouais. Mais j'aime bien. C'est un peu le regard amusé sur une tendance de la société.
Triptyque, c'est vraiment trois.
C'est un peu ce que Angèle fait avec Victime des réseaux.
Oui.
Tu vois, hop, là, tu regardes un peu, voilà. Ou ce que Booba fait avec les influx voleurs, ou je sais pas quoi. C'est une espèce de regard sur les choses qui sont passées.
Dans Triptyque, j'ai l'impression, moi, que tu fais quand même un bilan de ces 30 années de carrière.
Oui, il y a un peu de bilan là-dedans.
Il y a beaucoup de choses, c'est très riche. Ouais. Qu'est-ce que toi, tu retiens de plus fort de l'enregistrement de cet album, un moment clé? Il y en a eu beaucoup, j'imagine.
Je crois que c'est au moment où je découvre la production du titre Dingue. Parce qu'on se dit, mais comment se fait-il que cet homme fait le lien avec plusieurs époques? La rencontre avec Danny Sainté, qui a fait quelques morceaux, parce que c'est un nom que j'entendais un peu partout, à droite, à gauche. Il y a quelqu'un qui m'emmène chez lui. Hop. Il me dit qu'il connaît bien. Bon, je me rends compte que je connais plein de membres de sa famille, ses oncles. C'est la rencontre avec des nouveaux. J'ai pris, 5 ou 6 producteurs différents. D'habitude, mais là, comme c'était un projet à faire au long cours, donc chaque fois qu'il y avait quelqu'un de libre, j'allais le voir. Donc j'ai découvert 7 nouveaux producteurs, et donc je me suis rendu compte que chaque fois que j'allais dans une ville, je découvrais un producteur, je découvrais la ville, je découvrais le centre-ville, et les vibrations qui arrivaient n'étaient pas les mêmes à chaque fois.
Et t'expliques que t'as réussi à faire tout ça aussi parce que pour la première fois de ta vie, tu as découvert ce que c'était qu'un agenda.
Ouais,
avec
ouais,
des rendez-vous, ouais. Avec un truc un peu carré.
Ouais,
je trouve ça marrant à ton âge de s'en rendre compte.
Ouais, mais je m'en étais bien tiré à l'école sans agenda. Je m'en étais bien tiré en musique sans agenda. Ouais. Avec des téléphones, avec des beepers, avec des je sais pas quoi. Mais là, j'ai eu un vrai agenda, une vraie mission déjà, faire des morceaux régulièrement. Et puis, agenda, plus Google Agenda, mais voilà, ça change la vie. Mais vraiment, ça change la vie, puisque je sais ce que j'ai à faire le lendemain.
Tu vas continuer les dates de tournée, là. Où est-ce qu'on va pouvoir te voir?
On va pouvoir me voir dans toute la France, la Belgique et la Suisse.
D'accord.
La Normandie, la Savoie, le sud de la France. On a joué à Marseille là récemment, à Lyon. Bon, bref, un peu partout.
Ouais.
Dans des festivals pendant l'été.
Le printemps de Bourges? C'est passé ou pas?
Le printemps de Bourges, j'en ai passé.
Ah, ça y est.
C'est le premier des festivals de
oui.
France.
D'accord.
Voilà pourquoi il est au printemps.
Tu vas faire les Solidays.
Et puis on
ça
va faire les Solidays.
Ouais.
Et on va s'éclater. On va faire évoluer le spectacle. Et on va s'éclater. Et
moi, je serai là à la scène musicale.
Ouais.
Au premier rang. Et ce sera quelle date à Paris?
C'est au mois d'octobre.
Au mois d'octobre.
Je vous donnerai la date.
Okay.
Un peu plus tard.
Attends, je crois que je l'ai en plus, le 4 octobre.
Ah, ok.
Merci beaucoup.
Merci
et bravo pour ce triptyque qui est magnifique.
Merci
beaucoup.
Il
faut l'écouter, le réécouter. Il y a plein de petits clins d'œil, à plein de choses de ta carrière. À un groupe aussi que tu adores qui s'appelle Stella.
Ouais.
Que tu cites souvent.
Eh bien, écoute, je vais recroiser le chanteur de Stella au mois de juillet au Francofolie de Spa.
Ouais.
Et on a décidé de faire de se croiser sur scène. Ouais,
ça, c'est génial.
Voilà, c'est ton enfance et que tu peux serrer la main à un gars de ton enfance. Donc vive la musique, comme dirait Jules. Merci la zone.
Merci Claude.
Merci.
Les légendes de la chanson française. Un podcast M Radio avec Isabelle Jamy.